Étude sur Jeanne d'Arc, écrite par l'abbé Jean-Baptiste Jaugé. Chapitre 5. Sainteté chrétienne de Jeanne d'Arc. Foi, espérance et charité. Prudence. Chasteté. Jeanne appartient à l'Église. Jeanne d'Arc, je l'ai montré, est du petit nombre de ces âmes privilégiées auxquelles Dieu accorde l'honneur insigne d'entrer en relation directe avec le ciel. D'ordinaire, il choisit pour ses communications des natures d'élite qui semblent tenir moins de la terre que du ciel et mener dans une chair mortelle une vie angélique. Parfois, cependant, il n'a pas dédaigné de se révéler à des hommes de vertus vulgaires, qui doivent toute leur grandeur à ce choix gratuit du ciel. Jeanne d'Arc est-elle du nombre de ces derniers? Ou bien n'est-elle pas plutôt une de ces âmes chez qui la grandeur morale est à l'égal des privilégiés dont le ciel les comble? Éblouie par les dons merveilleux de prophétie et de courage militaire qui ont brillé dans Jeanne d'Arc, la postérité n'a pas ouvert les yeux sur un côté non moins grandiose de sa vie, sur sa sainteté chrétienne. Cependant, Jeanne fut une sainte, et c'est à sa sainteté qu'elle doit d'avoir été choisie pour la noble mission de sauver la France et d'avoir déployé une si merveilleuse constance dans l'exécution des ordres célestes. La sainteté n'est autre chose que la pratique de toutes les vertus portées à un degré héroïque. Ce n'est pas à dire que chaque saint et posséder chacune des vertus à un degré également extraordinaire. Mais cela signifie que pour être saint, il faut pratiquer d'une manière non vulgaire les principales vertus théologales et morales qui sont comme l'essence de la perfection chrétienne. À cette base de toute sainteté s'ajoutent dans chaque individu quelques vertus caractéristiques pratiquées à un degré héroïque. Les principales vertus théologales et morales ont-elles brillé chez Jeanne d'un vif éclat? Et quelle est la vertu qui forme, pour ainsi dire, son caractère distinctif? La première des vertus chrétiennes, la foi, fait comme le fond de la vie de Jeanne d'Arc. Et on peut bien lui appliquer cette parole de l'apôtre. Deux points. Justus meus ex fide vivit. Ici, le lecteur bénévole voit une note de bas de page portant le numéro 1 qui dit ce qui suit. Rom. 1:17. Probablement Romains, premier verset, 17e alinéa. Retour au texte de l'abbé Jaugé. La première des vertus chrétiennes, la foi, fait comme le fond de la vie de Jeanne d'Arc, et on peut bien lui appliquer cette parole de l'apôtre « Justus meus ex fide vivit ». Pour exprimer la fermeté de sa foi en l'origine divine de ses voix, elle ne pouvait trouver de comparaison plus énergique que de l'assimiler à sa foi aux vérités chrétiennes. Elle disait croire à ses révélations, comme elle croit que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert mort et passion pour nous, signifiant ainsi que la plus ferme de ses croyances était sa foi aux principes du christianisme. Elle a attesté qu'elle voulait mourir en bonne catholique, et que si dans ses réponses il y avait quelque chose de mal contre, entre guillemets, la foi chrétienne que notre sire a commandée, elle ne le voudrait soutenir et serait bien courroucée d'aller à l'encontre, fermez les guillemets, à l'encontre de cette foi. Pour être parfaite, la foi doit être accompagnée des œuvres, surtout dans une âme essentiellement active comme fut Jeanne. Aussi la voyons-nous constamment t'occuper des actes de dévotion que lui inspirait l'ardeur de sa foi. Avant son départ pour la guerre, elle fréquente les églises et les pèlerinages voisins de son village. Elle assiste souvent à la messe, se confesse tous les mois, reçoit fréquemment la Sainte Eucharistie, se met à genoux au milieu des champs quand elle entend le son des cloches, et parfois quitte ses compagnes et se retire derrière les haies ou les buissons pour faire plus à son gré ses oraisons. Elle témoignait une spéciale dévotion à la Vierge Marie, et pour ce, aimait à aller souvent à l'ermitage de Notre-Dame de Bermont, situé près de son pays. Un témoin du procès de réhabilitation raconte aussi que, durant son séjour à Vaucouleurs, elle entendait souvent les messes du matin dans l'église de Notre-Dame de cette ville et y demeurait longtemps en prière, ou bien encore elle descendait dans la chapelle souterraine et s'agenouillait devant l'image de Marie, le visage humblement prosterné ou levé vers le ciel. Telle était la vivacité de sa foi, qu'elle paraît avoir eu dès lors le don des larmes, don qu'elle posséda certainement dans la suite, entre guillemets. Elle jeûnait et pleurait, dit Jean Massieu, parlant d'elle avant son voyage à Chinon. Cette foi vive de son enfance, si difficile à conserver au milieu du tumulte et de la licence des camps et de la cour, ne fit que briller chez elle d'un éclat de jour en jour plus vif. Tous les jours, vers le soir, elle faisait sonner les cloches environ une demi-heure et réunissait les religieux de la suite de l'armée pour chanter des antiennes à la Sainte Vierge. Elle se levait 3 ou 4 fois la nuit pour faire ses oraisons, recommandait aux gendarmes de se confesser avant d'aller à l'assaut, faisait marcher devant sa compagnie un bataillon de prêtres chantant des hymnes et reprenait courageusement les blasphémateurs, fussent-ils des seigneurs ou des princes. On raconte qu'un jour, en sa présence, un grand personnage se permit de jurer en pleine rue et de renier Dieu. Cette sainte fille s'en troubla de déplaisir, alla vers ce seigneur qui jurait encore, et le prit par le collet, disant 2 points. « Ah, maître, osez-vous bien renier notre seigneur et notre maître? En nom Dieu, vous vous en dédirez avant que je parte d'ici. » Ce seigneur se repentit aussitôt et révoqua ce qu'il avait dit. À la vue de ses ennemis étendus sur le champ de bataille, elle ne regrettait rien tant, disait-elle, que de savoir qu'ils étaient morts sans confession. Elle procurait elle-même des confesseurs aux blessés, sauvait les églises du pillage et faisait respecter les gens d'église anglais. Et la seule grâce qu'elle ait demandée au roi, c'est de faire célébrer après sa mort des messes pour le repos de son âme. Que dire de sa foi au sacrement de nos autels? Son premier soin en entrant dans une ville était d'aller à l'église pour adorer son Créateur. Dans ses communions, qui étaient fréquentes, elle versait des larmes en abondance. Pendant sa détention, elle avait obtenu de Jean Massieu de faire oraison dans la chapelle du château avant d'entrer à la salle des séances. Cochon le sut et ordonna de lui fermer l'entrée de l'église comme à une excommuniée. Alors elle supplia son conducteur de lui permettre au moins de prier devant la porte de cette église, demandant expressément, entre guillemets, y est le corps de notre Seigneur, fin de la citation, ce qui faisait saigner son cœur durant son procès, c'était de ne pouvoir entendre la messe et recevoir son Sauveur. Ses ennemis se servirent même de son vif désir de la communion, comme d'un appât, pour la faire consentir à leur dessein. Cette foi de Jeanne est d'autant plus admirable qu'elle fut soumise à la plus terrible des épreuves. Qu'y a-t-il en effet de plus capable d'étouffer la foi dans une âme que la vue de ces juges ecclésiastiques, cardinaux, évêques, religieux, représentants du Saint-Office et délégués par autorité apostolique, trahissant leur conscience, accusant et condamnant comme hérétique une âme certaine de son orthodoxie et cherchant à mettre en contradiction la parole catholique de Dieu avec les révélations particulières qu'il fait à ses serviteurs. Cette épreuve nouvelle ne fit qu'ajouter une gloire nouvelle au triomphe de Jeanne, et à lire les récits que nous ont laissés les témoins oculaires de son supplice, on croirait avoir sous les yeux une page des Actes des martyrs. L'espérance, fille de la foi, fut chez Jeanne la principale source de ce merveilleux courage qui la fit triompher de tous les obstacles et accomplir jusqu'au bout sa divine mission. Elle n'attendait rien de ses propres forces, mais tout de Dieu. Ce qui la consola dans ses dures épreuves, ce fut l'espoir du paradis, dont elle parla souvent durant son procès et même sur le bûcher. Quand ses juges la pressent et cherchent à lui démontrer que le ciel l'abandonne, elle répond, entre guillemets, « Qu'elle s'en attend à notre Seigneur ?» Fin de la citation. Et c'est ce sentiment d'espérance qu'elle oppose invariablement à toutes les attaques de ses ennemis. Et il lui fallut, dans la promesse de Dieu, une confiance sans bornes et vraiment héroïque pour ne pas désespérer de l'exécution des ordres du ciel, alors que parents, princes, hommes d'Église, tout semblait s'opposer à leur réalisation, alors surtout que, tombée en la puissance de ses ennemis, elle s'entendait reprocher cette foi qu'elle avait aux promesses divines. Mais elle savait en qui elle avait mis son espérance. Ce qu'elle a recherché, ce n'est point la gloire. Elle aimerait mieux filer auprès de sa mère que vivre à la cour du roi. Ce ne sont point les richesses, elle n'a jamais rien demandé à Charles, mais ce sont les joies du paradis qu'elle espère conquérir en faisant la volonté de Dieu. Heureuse fut-elle de n'avoir point mis son espoir dans les hommes. Jusqu'ici, elle n'a guère obtenu d'eux que l'injustice et l'ingratitude. Ces vertus de foi et d'espérance qu'on retrouve dans toute vie chrétienne tendent à la charité, qui est la plus parfaite des vertus théologales, et comme le couronnement de la sainteté. Jeanne, messie de la France, posséda cette vertu à un degré éminent, puisqu'elle sacrifia sa vie pour exécuter la volonté de Dieu et sauver son pays. 2. Majorem hac dilectionem nemo habet ut animam suam ponat quis pro amicis. Ici, le lecteur bénévole voit une note de bas de page portant le numéro 1 qui dit ce qui suit. JOAN.15,13. Retour au texte de l'abbé Jaugé. Je ne m'arrêterai pas à examiner chacun des actes de charité que Jeanne pratiqua. Il me suffira d'en rappeler les traits principaux. Blessée pendant le siège d'Orléans, elle n'a personne pour panser sa plaie. Un homme d'armes veut la charmer. Elle refuse, disant qu'elle aimerait mieux mourir que de faire chose qui déplut à Dieu. Le comte de Suffolk et Talbot l'avaient accablé d'injures grossières qui avaient fait couler les larmes de cette chaste guerrière. Elle se contente de leur dire, quand elle les a fait prisonniers, 2. Que Dieu ait pitié de votre âme. Fin de la citation. Les pauvres gens des champs viennent en foule à elle. Jamais elle ne se plaint de leur importunité, mais au contraire, elle les accueille avec amour et leur fait tout le bien qui est en son pouvoir. Elle se voit sans cesse entravée dans ses desseins par le roi et son conseil, puis lâchement abandonnée. Il ne sort pas une plainte, pas une récrimination de sa bouche. Enfin, à l'instance suprême, quand victime de la méchanceté de ses juges, elle va monter sur le bûcher, elle déclare publiquement qu'elle pardonne à tous ceux qui lui ont fait du mal, et va même jusqu'à se recommander aux prières de ces âmes iniques. Qui ne reconnaîtrait en elle le disciple fidèle de celui, avec majuscule C, qui, sur la croix, pardonna à ses bourreaux? Du rapide examen que je viens de faire de la vie de Jeanne sous le rapport des vertus théologales, il ressort que le principe de sa vie morale fut le principe chrétien, et que les autres vertus dont elle donna de si beaux exemples furent chez elle anoblies et élevées à un ordre supérieur par l'intention et la grâce surnaturelle. Parmi ces vertus morales, je signalerai seulement sa prudence ou sagesse, sa tempérance, son humilité et sa force. Cette dernière vertu a brillé chez elle d'un éclat particulier et fait, pour ainsi dire, son caractère distinctif. Jeanne n'eut point une de ces vies tranquilles, dans lesquelles la prudence mérite à peine le nom de vertu. Passant subitement de sa chaumière à la cour du roi et échangeant à l'âge de 17 sa houlette contre une épée, cette jeune bergère eut besoin d'une prudence plus qu'humaine. À l'entrée même de sa carrière, elle rencontra un obstacle difficile à vaincre et dont, grâce à sa sagesse, elle triompha avec une merveilleuse habileté. Dieu lui commande d'aller en France et son père refuse absolument de la laisser partir. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Jeanne part donc à l'insu de ses parents. Elle a satisfait à son père du ciel. Elle veut satisfaire aussi à son père de la terre. Elle lui écrit donc et en obtient son pardon. Dans les camps, elle est en contact habituel avec des hommes d'armes dont la chasteté n'est point précisément la vertu favorite. Elle comprend combien il lui importe de conserver sa réputation intacte. Aussi, lorsqu'il ne s'agit pas du fait de la guerre, elle s'écarte de la compagnie des hommes. Dans les villes, elle loge chez les matrones les plus respectables. Elle veut même avoir toujours une femme pour compagne de lit. Grâce à ses précautions, elle garda toujours sa renommée pure de toute souillure. Et la postérité lui donne encore le beau nom de Pucelle. Sa carrière fut semée d'écueils plus dangereux encore et plus difficiles à éviter. Il lui fallait ne pas blesser la susceptibilité d'un roi jaloux et ne point donner prise aux attaques d'un conseil impuissant à sauver le royaume et irrité de voir l'autorité passer de ses mains dans celle d'une jeune fille. Simple bergère, Jeanne devait imposer ses sentiments à de vieux guerriers. À des princes du sang, elle dut plus d'une fois les faire changer d'avis et vaincre comme malgré eux. Elle déploya tant de circonspection tant de sagesse que l'orgueil militaire et nobiliaire de ses compagnons d'armes n'en fut jamais froissé. L'admiration populaire lui décernait des honneurs presque divins. Les foules accouraient à sa rencontre en criant « Noël! Noël! » et en chantant « Te Deum ». Elle se tenait si bien à sa place et se montrait si humble que le roi et les princes avec qui elle marchait ne s'en trouvèrent jamais humiliés. Mais ce qui semble plus merveilleux encore, c'est la prudence et la sagacité qu'elle déploya dans toutes ses réponses durant un long procès poursuivi avec l'ardeur de la haine par les docteurs les plus retors et les plus versés dans la chicane. Si les annales judiciaires ont jamais montré autant de subtilité chez les accusateurs, certainement elles n'ont jamais montré tant d'habileté jointe à tant de franchise chez l'accusé. Ce qui augmente l'admiration, c'est que ce prodige de sagesse était une pauvre fille de laboureur qui n'avait appris que le entre guillemets pater, l'ave et sa créance, et qui n'avait jamais vécu qu'avec des gens de la campagne ignorants comme elle. L'éclat de cette vertu était encore rehaussé chez Jeanne par la franchise et la sincérité la plus complète. La prudence humaine, surtout dans les cours, est toujours et comme nécessairement souillée par la duplicité et le mensonge. Elle a des côtés secrets, des ressorts mystérieux qu'on ose faire paraître au grand jour. La cour de Charles offrait alors plus d'un exemple illustre de cette politique mondaine. Regnault de Chartres et la Trémoïle en connaissaient et pratiquaient tous les secrets. Chez Jeanne, la sagesse est pure de tout cet alliage. L'histoire de sa vie ne nous offre pas un trait, pas une parole qui ne respire la plus entière franchise. À la première apparition du ciel, Jeanne avait voué à Dieu une vertu difficile à garder dans toutes les circonstances de la vie, mais surtout au milieu des camps. Jeanne avait fait vœu de virginité. Nous avons déjà vu quelles précautions elle employa pour éviter même l'ombre d'une souillure. Elle fuyait la compagnie des hommes autant que faire se pouvait, recevait fréquemment dans la communion le pain des forts et le vin qui fait germer les vierges. Elle jeûnait les vendredis et pendant tout le carême et montrait une spéciale dévotion à la Vierge Marie. Exposée dans la prison laïque où elle était détenue, à des violences de toute espèce et à des injures qui pouvaient souiller sa chaste imagination, elle n'épargna rien auprès de ses juges pour être menée, entre guillemets, « es prison ecclésiastique », fin de la citation, où elle n'aurait pas eu à subir tous ces outrages. Pour mieux défendre sa pudeur contre les attaques de ses gardes, elle eut le courage de reprendre ses habits d'homme qu'elle avait juré de ne plus revêtir, sachant bien qu'une telle conduite la ferait déclarer relapse et condamner au feu. Ainsi, on peut bien dire qu'elle mourut martyre de la chasteté. Elle garda intacte sa virginité de corps et d'âme pendant toute sa vie, ainsi que l'ont attesté les matrones déléguées par deux fois pour l'examiner. Tel était son amour pour cette angélique vertu, que la seule vue d'une, entre guillemets, « femme folle de son corps », fin de la citation, comme elle appelait les filles perdues, suffisait pour exciter son indignation. Quand elle en rencontrait quelqu'une, elle lui adressait d'abord des remontrances avec douceur. Puis, quand ce moyen ne réussissait pas, elle usait d'une vigueur tout apostolique. Un jour même, elle en poursuivit une et la frappa du plat de son épée, qui se rompit. Pour récompenser cet amour de la virginité, Dieu la favorisa d'un don rare, même chez les saints. Elle était jeune, bien faite et d'une beauté remarquable, et cependant, sa vue n'excita jamais le moindre désir impur dans le cœur de ceux qui vivaient en sa compagnie. Jean Dolon raconte que, soit pour l'armée, soit pour la pensée, il fut maintes fois forcé de voir son corps et de la toucher, et que jamais ni cette vue, ni ses attouchements n'ont produit chez lui la moindre révolte des sens, quoiqu'il fût alors dans toute la force de l'âge. Ceux qui ont vécu avec elle attestent même qu'elle fut exempte des incommodités naturelles de son sexe. Dieu ne voulait pas que l'ombre d'une souillure, même purement matérielle, profanât le corps virginal de celle qu'il appelait sa fille. La chasteté de la Vierge suppose l'humilité, comme les faits supposent la cause. La virginité, en effet, est un état de perfection dans lequel l'homme ne saurait vivre sans un secours particulier du ciel, et cette faveur, Dieu ne l'accorde qu'aux âmes humbles. Ayant vu la chasteté briller chez Jeanne d'un tel éclat, nous avons le droit d'en conclure qu'elle fut humble, et c'est ce que nous montre son histoire. Ainsi, jamais elle ne s'attribuait gloire, mais rapportait tout à Dieu. Quoiqu'elle fût heureuse de voir le peuple accourir sur son passage et sur celui du roi, elle refusait cependant les expressions trop vives de l'admiration populaire. On la vit maintes fois se courroucer de ce qu'on lui apportait des objets de piété à bénir par son attouchement, disant qu'elle n'y pouvait pas plus que les autres. Au milieu des honneurs presque divins qu'on lui rendait, de toutes parts, elle n'oublia ni ses parents, ni son village. Souvent, on l'entendit s'écrier depuis le sacre du roi à Reims, c'est-à-dire quand elle était au comble de la gloire. Ouvrez les guillemets. Je voudrais que ce fût le plaisir de Dieu, mon Créateur, que je m'en retournasse maintenant en laissant les armes pour aller servir mon père et ma mère en gardant les brebis avec ma sœur et mes frères, lesquels se réjouiraient fort de ma venue. Fin de la citation. Ce n'est pas mon état, disait-elle encore, mais notre sire, Dieu, le veut. Fin de la citation. Observons cependant que son humilité ne revêtit point les formes qu'elle affecte d'ordinaire chez les saints. Ainsi, son histoire ne rapporte pas qu'on l'ait jamais entendue se proclamer la plus grande des pécheresses, la dernière des créatures. Bien qu'à la tête des armées, elle regretta sa condition de simple bergère, on ne la vit cependant jamais rechercher les derniers emplois, ni les humiliations, comme l'ont fait tant de grands saints. Mais cela ne diminue en rien le mérite de sa vertu. Les mêmes sentiments paraissent sous ses dehors divers, selon les diversités de caractère. Au reste, Jeanne était à l'armée une envoyée de Dieu, et devait, par conséquent, parler et agir avec toute l'autorité que lui conférait une pareille mission, et on comprend que, dans un chef d'armée, l'humilité se manifeste sous une autre forme que chez un moine. De toutes les vertus de Jeanne, celle qui lui donne sa physionomie propre, son caractère distinctif, c'est la venue de force, c'est l'héroïsme. Héroïque, en effet, fut Jeanne d'Arc dans toute sa vie. Héroïque sur le champ de bataille, héroïque dans sa constance à lutter contre les indécisions du roi, héroïque dans sa prison, héroïque sur le bûcher. La postérité a toujours reconnu cette vertu dans Jeanne. On l'a même trop exclusivement célébrée. Et l'héroïne a fait disparaître la sainte. Je ne m'arrêterai donc pas sur ce point. Quant aux rétractations partielles que la ruse et la violence arrachèrent à cette innocente victime, on ose à peine les qualifier de faiblesse. Au récit des tortures physiques et morales qui avaient épuisé ses forces, on n'a pas le droit de s'étonner d'un instant de défaillance. Au reste, les flammes du bûcher ont expié cette faute, si faute il y eut. Cette merveilleuse sainteté de Jeanne avait frappé les regards du peuple, et le cardinal d'Angleterre fit jeter dans la Seine les cendres de la Pucelle, craignant qu'on ne les honorât comme les reliques d'une martyre. Son confesseur la proclamait une sainte, et un de ceux qui avaient pris part au procès s'écriait, deux points, « Je voudrais que mon âme fût où je crois qu'est l'âme de cette femme. » Fin de la citation. Le bourreau, après l'exécution, courut au couvent des frères prêcheurs, disant qu'il craignait d'être damné pour avoir brûlé une sainte femme, et Tressard, secrétaire du roi, disait en revenant du supplice, deux points, « Nous sommes tous perdus, c'est une sainte qu'on a brûlée. » Fin de la citation. De ce rapide coup d'œil sur les vertus de Jeanne ressort cette vérité évidente comme le jour. Deux points. Que cette héroïne fut avant tout une sainte chrétienne. Dire qu'elle fut l'incarnation du sentiment patriotique, l'âme de la France, c'est employer de grands mots pour exprimer des idées vagues et incomplètes. Jeanne fut une pieuse chrétienne catholique, à qui Dieu donna miraculeusement la mission de sauver la France avec les moyens de l'exécuter, lui inspirant un patriotisme ardent et la faisant triompher de ses ennemis. Telle est l'idée précise que l'on doit se former de Jeanne. On a dit, ici le lecteur bénévole voit une note de bas de page portant le numéro 1 qui dit ce qui suit. Monsieur Henri Martin, op.cit. page 5. Retour au texte de l'abbé Jaugé. On a dit qu'aucune doctrine, aucune forme, aucune secte ne doit absorber celle qui fut le Messie de la France. C'est évidemment une injustice. Jeanne est une chrétienne, une fille de l'Église catholique dans laquelle elle est née, dans laquelle elle a vécu et dans laquelle elle a protesté qu'elle mourrait. Elle a cru ce qu'enseigne l'Église, espéré ce que promet l'Église, aimé ce qu'aime l'Église et pratiqué ce que commande l'Église. Toutes ses paroles et tous ses actes en font foi. Jeanne est donc bien à l'Église et au christianisme. Nulle autre société, nulle autre doctrine n'a le droit de la réclamer. Elle appartient aussi à la France, mais à la France chrétienne, qui est le royaume du Fils de Marie, dont l'archange Saint-Michel est le défenseur, le trompette, disait-elle, et pour qui, ouvrez les guillemets, Charlemagne et Saint-Louis prient à genoux devant le trône de Dieu. Fin de la citation. Elle sauve cette France parce que notre Seigneur Jésus-Christ le lui commande. Sans cesse, elle répète que c'est là l'unique motif qui la guide. Elle s'adresse, pour chasser l'ennemi de France, aux anges et aux saints de l'Église. Elle réclame les prières de ses prêtres. Voilà la France que Jeanne a voulu sauver, et qu'elle a sauvée en effet. Voilà les intentions qui l'ont animée, intentions nettes, précises, qui sont loin de ce sentimentalisme et de ce vague patriotisme dont on prétend qu'elle fut la personnification. Peut-être bien des esprits trouveront-ils cette appréciation petite et mesquine. Mais Elle a la grandeur de la vérité. Fin du chapitre 5 de l'étude sur Jeanne d'Arc, écrite par l'abbé Jean-Baptiste Jauger.